On est certes reconfiné, mais Koh-Lanta continue et c'était le 10e épisode vendredi dernier. Salut à tous, c'est Damien et aujourd'hui on va débriefer cet épisode de le troisième de la réunification de Koh-Lanta les Quatre Terres et avec autour de moi une très grosse team encore une fois puisque y a Freeze qui est de retour avec nous. Salut Freeze.
Bonjour Damien, bonjour tout le monde, très content de vous retrouver.
Alors toi, j'ai cru comprendre cet épisode, tu l'avais pas trouvé folichon.
Oui, c'est à peu près bien résumé. Je pas, bah, de toute manière, les courriers, moi, c'est pas ma passion. Heureusement, là, ça a été assez expéditif, donc c'était déjà un moindre mal. Mais j'ai trouvé l'épisode moyen. Voilà, mais on y reviendra, je pense.
Avec nous aussi, quelqu'un qui était déjà venu la saison dernière avec nous, qui a pris du galon, puisque je crois que tu es maintenant directrice, enfin, de co-présidente du label Podcut, c'est Amy. Salut Amy.
Salut Damien, bonjour tout le monde.
Alors du coup, toi, quelle est un peu ton actualité dans le monde du podcast, toi, maintenant?
Au-delà du label Podcut, comme tu l'as dit, j'ai deux podcasts fixes qui sont tous les deux des podcasts sur l'auteur Stephen King, ou Stephen King, si on veut le dire à la française. Donc Le Roi Stephen, où on est six, où on analyse une œuvre une fois par mois, et La Gazette du Maine, qui sort à peu près un lundi sur deux sur l'actualité de King. Et puis j'interviens à gauche, à droite, dans des podcasts amis, dont celui-ci. Et c'est ma deuxième participation. Et la première, c'était déjà pendant un confinement. Donc c'est vraiment mauvais signe.
Bah, c'est notre faute, hein, tu peux le lire.
Oui, un petit peu, peut-être.
Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, toi?
Ben moi, je l'ai bien aimé. J'aime bien les épisodes où il y a les courriers parce que j'aime bien les épreuves. Donc ça fait des épisodes à trois épreuves.
D'accord, ouais, c'est vrai que vu comme ça, non, ça se comprend complètement. Bah, merci d'être avec nous, en tout cas. Ensuite, on va passer à une autre intervenante qui était venue, elle, pour le tout premier épisode de cette saison. C'est Hélène. Salut Hélène.
Salut Damien.
Alors toi, est-ce que t'as aimé cet épisode? Comment ça va en ce moment et tout? Est-ce que tu es bien confinée?
Ouais, bah ça va, j'ai bien kiffé l'épisode. Non, non, j'ai vraiment bien aimé. Donc ça va être intéressant d'en parler. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense.
Avec nous aussi, il nous reste encore deux intervenants. On a aussi quelqu'un qu'on aime bien recevoir ici, on peut dire un habitué, je dirais, du podcast, c'est notre ami Juju. Salut Juju.
Salut Damien, salut tout le monde.
Alors toi, pareil, bah, même question, est-ce que tu as apprécié cet épisode?
J'ai bien apprécié l'épisode, en vrai. J'ai trouvé qu'il était dynamique, rythmé au niveau des épreuves, au niveau de la stratégie, qu'il y avait des choses qui se passaient, avec des constructions et des déconstructions d'alliances assez rapides. Donc il y a pas mal de choses à dire, je pense, à ce niveau-là. Et bon, c'est un épisode où il y a enfin eu une séquence qui montrait Ava plus de 15 secondes, ce qui est appréciable.
C'est vrai, ça va. Donc la pauvre qui, on en parlera après, mais où on a vu surtout sur une séquence qui, bon, était marrante, mais n'avait pas grand intérêt. Et enfin, bah, avec nous, bah, c'est no notre parrain qui est là, c'est Cyril.
Ben oui, voilà, je suis revenu, me revoilà.
Salut
Ben, je suis
Cyril,
content d'être
bon.
avec vous.
Comment
Bonjour
ça
à
va?
tous. Ça va bien, je suis content d'être avec vous. Puis on va débriefer un petit peu de moi cet épisode que j'ai trouvé plutôt intéressant. Il y a des choses qui se mettent en place, c'était rythmé, ouais, c'était pas mal. Puis moi, les courriers, c'est un peu ma spécialité, donc c'est pas mal que je sois là.
Alors, bah, du coup, on va se lancer sans plus tarder dans l'épisode. Juste avant l'épreuve où Dorian et Jody vont chercher les courriers, est-ce qu'il y avait, vous aviez vu quelque chose qui a attiré votre attention?
Pas spécialement, juste on peut regretter de ne pas avoir vu Becca arriver. Je pense que ça aurait été une séquence plutôt sympa, mais en général, ils le font. Enfin, de mémoire, c'est rarement le cas pour les gens qui sont éliminés sur une épreuve. Je crois qu'on ne voit pas toutes les arrivées au jury final. Ouais, mais c'est dommage de ne pas l'avoir vu lui, parce que je pense que les retrouvailles auraient été sympas. Et que bon, après, on l'a beaucoup vu, donc c'est logique aussi. Puis je pense qu'il voulait peut-être s'attarder sur les autres candidats plutôt que sur encore une séquence émotion. Mais bon, d'un point de vue spectateur et de quelqu'un qui aime beaucoup Beckham, je l'ai un peu regretté, mais c'est vraiment presque anecdotique.
Et d'ailleurs, justement, pendant le jury, c'est qu'on se rend compte à quel point Laurent est très, très, très mal vu du jury.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a déjà trois ex-verts aventuriers de l'Est au jury, alors qu'ils étaient six à la réunification. Donc, c'est vraiment l'équipe qui se fait décimer en ce début de réunification. Et force est de constater que Laurent n'y est pas vraiment étranger, puisqu'il a participé à l'élimination d'Adja et ensuite à celle de Joaquina, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, je pense qu'il y a un petit peu un sentiment de trahison du côté du jury, et ça sera difficile pour Laurent d'aller chercher la victoire, même s'il arrivait jusqu'en finale, à mon avis. Mais après, ça reste tôt dans le jeu, donc ça peut s'inverser.
Tiens, Amy, toi, qu'est-ce que tu penses, toi, de Laurent, justement, du personnage de Laurent?
Je pense qu'il est un peu perdu entre les stratégies de couleurs avec ses deux anciennes couleurs, plus ce qu'il voudrait faire au mérite, ce qu'il voudrait faire avec les affinités. Je pense qu'il n'arrive pas, comme d'autres, à suivre une seule ligne de conduite. Et qui, j'ai pas l'impression que ce soit stratégique. Je pense que c'est vraiment, il essaye de faire au mieux en essayant de penser à lui aussi un petit peu, et que c'est pas évident, et que de l'extérieur, ça peut être un peu mal interprété.
Hélène.
Laurent, moi je l'aime beaucoup. Je pense que là, avec l'élimination du coup de Jody, il est pas si mal placé que ça. Il garde, enfin, il a dit lui-même qu'il était allié avec du coup Dorian, Alix et du coup aussi un peu Loïc. Donc ça lui fait quand même trois bons alliés. Donc suivant les binômes là, si c'est pas une de ces trois personnes qui part, je pense qu'il peut être quand même très bien placé, mais. Je pense qu'il peut arriver en finale, mais ouais, je suis un peu comme vous au niveau du jury final. Je pense qu'il risque de se faire un peu massacrer au jury final. Mais sinon, il est bien positionné, je pense.
Et puis, bah, Cyril, tiens, toi qui vois ça. Est-ce que Laurent, il serait plutôt... Justement, c'est un stratège qui se cache derrière un mérite qu'il tord dans tous les sens. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il se protège, comme l'a dit Joaquina, sur la maison du jury, toi, comment tu vois ça?
Moi, je trouve qu'il est un peu trop ambigu, en fait. Il a pas de position claire et je suis pas très sûr qu'il soit si bien placé que ça, en fait. Je pense que, justement, il est un peu trop entre deux pour se positionner dans une alliance forte. Et je pense, là, je vois pas... Et puis le jury, voilà, l'attend au tournant. Donc moi, je le vois pas très bien placé, en fait, dans un avenir... plus ou moins proche. Et après, on va voir se cacher derrière un mérite, alors que finalement, il est quand même plutôt dans la stratégie. Je ne suis pas sûr que ça marche non plus et que les gens vont vite le voir. Donc, ça sonne un peu creux, je trouve.
Ouais, même s'il est arrivé jusqu'à la fin, en plus, je ne vois pas comment les gens pourraient voter pour lui. Il n'a pas vraiment, en termes d'affinité ou de performance, il est un peu entre les deux. Donc là, il tire son épingle du jeu, mais ce n'est pas dit qu'en effet, ça durera très longtemps.
C'est ça. Je le vois pas se faire éliminer parce que je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à l'éliminer, mais je vois pas non plus beaucoup de personnes voter pour lui à la fin. Donc,
C'est ça.
Ah, il peut rester en effet, mais il sera pas. C'est pas un winner dans le truc. On le sent pas comme ça en tout cas. Mais il peut rester, oui, parce que c'est vrai qu'il pour l'instant il gêne pas spécialement et puis il peut être utile. Donc.
Alors sur le chat, on a bon, les gens sont plutôt d'accord avec vous puisqu'ils disent Valentin qui dit le problème de Laurent c'est qu'il n'affiche pas clairement ses positions. Position, apparemment, il dit oui à tout le monde, ça passe mal. Et Nika qui dit Laurent dit qu'il vote au mérite, mais c'est un vœu pieux. Au final, le mérite, il voit comme ça l'arrange le moment. Bah, comme la plupart.
Complètement. De toute façon, c'est comme ouais. Toujours. Ça, c'est quand même...
oui, c'est tout le monde, ça.
Marc qui dit en confesse, il est honnête, il explique bien ce qu'il veut faire, mais il est un peu hypocrite sur le camp. Et Valentin qui dit aussi que c'est plus ou moins la stratégie de Marc de Koh-Lanta Jour de faire la strat sous prétexte de mérite. Qui est. Plutôt aussi, au final, c'est toujours plus sympa de faire de la stratégie quand tu donnes l'impression d'avoir la morale de ton côté, même si en tous les sens.
Le truc, c'est que Marc avait réussi à emmener avec lui en finale une personne qui était encore plus détestée que lui, et là, pour le moment en tout cas, je vois pas qui est moins bien vu que lui par le jury. Après, il reste encore pas mal d'éliminations à faire, donc il peut y avoir un autre vilain qui se révèle. Pour l'instant, ça me paraît compliqué.
Tu voulais dire, Cyril ?
Ouais, sur le game, en fait, on est tous en train de se dire, on pense aussi à la visibilité qu'on va avoir, ça c'est, on peut pas le nier, et on essaye toujours de trouver une sorte d'excuse pour justifier nos agissements, donc il y en a qui utilisent le mérite, voilà, donc je pense que lui, il a pris ce prisme-là, mais on cherche tous toujours à se dédouaner, genre, non mais attendez, c'est pas moi, c'est le mérite, c'est pas moi, c'est l'affinité, c'est pas moi, c'est il a été mauvais sur une épreuve, donc bon, je vais pas lui jeter la pierre non plus, mais ça marche pas forcément.
Alors, du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'épreuve... pour les courriers. Donc là, ils ont voulu faire les courriers sur cet épisode-là. C'était une épreuve qui était très sympa à voir avec des nœuds, avec un bambou à souper et tout, qui était très agréable à voir, franchement, j'ai trouvé.
Ouais, bah, j'aurais préféré, je peux te dire. Hein. J'aurais préféré cette épreuve que tu cherchais dans la jungle comme un con pendant 2 heures.
C'est clair. Franchement.
Et puis c'est extrêmement bien tombé que ce soit Jody pour le coup.
Ah bah oui, avec les ostréicultrices, ça a été très bien.
Ensuite, c'est Au final, il y avait plusieurs balises à retrouver. Donc, ils en ont trouvé 7. Et ça tombe bien, il y avait 7 cases de nourriture. Donc, ils ont pris aucun courrier et que la nourriture. J'ai tendance à penser que c'est un excellent choix parce que la nourriture, ça met tout le monde d'accord. Et en plus, en tant que spectateur, ça nous a un petit peu épargné la séquence des courriers qui est toujours un peu longue et un peu casse-pied. Vous, pareil sur cette épreuve, sur le choix stratégique de Dorian et de Jody, pareil, qu'est-ce que vous avez pensé? On va commencer par Freeze.
Bon, sur le choix des ambassadeurs, on va dire, pour le courrier, il n'y a pas grand-chose à dire. Dorian s'est assez vite proposé. Bon, c'est dans la logique, hein, c'est un peu le leader, même si ce n'est pas vraiment avéré, mais en tout cas, c'est lui quand même qui prend un peu les rênes sur la plupart des décisions. Bon, Jody, c'est à mon sens parce qu'il fallait quelqu'un d'autre. Elle s'est pas vraiment distinguée sur le camp. Je pense qu'elle était un peu appréciée de tout le monde. Donc c'est pas un truc qui a fait beaucoup de débat. Après, sur l'épreuve en elle-même, effectivement, elle était plutôt sympa. Moi, j'ai qu'un regret, c'est qu'ils aient eu que sept totems là, parce qu'un huitième aurait foutu une merde incroyable. ils auraient donc pris toute la bouffe et une lettre. Et alors là, ça aurait été incroyable. Je pense qu'on aurait tous oublié Cyril. Je pense qu'il y a quelqu'un qu'on aurait pris encore merde. Plus. Donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même une épreuve qui est censée foutre un peu le bordel. Et là, c'était pas du tout le cas. Tout le monde était content, tout le monde a bien mangé, etc. Donc on s'épargne la séquence un peu larmoyante des lettres, mais on perd un petit peu en termes de drama, même si le choix est évidemment hyper logique. Je pense même qu'il y a moyen que ça fasse un peu leçon pour les saisons suivantes. Là, on voit comment ça se passe et comment on peut gérer cette épreuve-là. Je pense que s'il y a des possibilités les saisons suivantes de refaire la même, c'est pas impossible qu'ils s'en inspirent. On verra, mais...
Ouais, après, ça me fait un peu rire, moi, ça, parce que je pense que dans ma saison, même si les garçons de ma saison, Nicolas et Mohamed, disent que j'aurais dû prendre que de la bouffe, je pense que je serais arrivé avec que de la bouffe, j'aurais eu droit quand même à un petit taquet. Hein. Donc, c'est parce que cette saison, on voit qu'ils sont quand même plutôt bons enfants, ils sont même fair-play sur les sacs, par exemple, tu vois, il n'y a pas eu de problème. Alors que, par exemple, sur l'île des héros ou sur la guerre des chefs, il y a eu quand même des petites remontrances. Donc, c'est quand même un esprit d'équipe qui fait foi. Donc, c'est pas forcément, ça marchera pas forcément sur toutes les saisons.
Ouais, mais le fait d'avoir aucune lettre leur donne aucune raison de râler plus que ça, tu vois. Vous, il y avait quand même des lettres et de la bouffe. Donc, il y a toujours un moyen de trouver une faille pour essayer de créer un peu la zizanie. Là, très clairement, personne va aller râler parce qu'il a pas sa lettre.
Étant donné
que personne n'en a.
C'est
vrai que c'est plus facile quand même pour eux d'être dans cette logique-là.
Ouais, mais. Ouais, ça d'accord, mais tu vois, nous, on avait mis en place un tirage au sort. Ce que j'ai appris, c'est que dans cette saison aussi, ils avaient mis en place un tirage au sort. Ils ne l'ont pas utilisé parce qu'ils ont pris toutes les lettres, toute la bouffe, tant mieux. Ouais. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça dépend vraiment de la mentalité des personnes avec qui tu es. Pour que ça passe bien ou pas. Donc, à voir pour les prochaines saisons. Hein. Moi, je suis pour que ça passe consensus et que les prochaines fois, ça marche très bien. Mais je suis un peu dubitatif.
Alors, Hélène, on t'a pas entendu à ce sujet.
Ouais, moi, j'étais un peu déçue. Je trouvais que du coup, ça servait un peu à rien. Puis, je fais un peu partie des rares personnes qui aiment bien les séquences émotions, qui aiment bien pleurer devant les gens qui lisent leurs lettres. Du coup, là, j'étais un peu déçue parce que j'ai pas eu ça. Mais non, ouais, c'était un choix logique, donc ils ont bien fait. J'ai vu quelqu'un qui a dit, sinon ils auraient pris la lettre de Fabrice, ouais, c'est possible aussi, je pense que ça serait passé s'ils avaient eu un huitième et qu'ils avaient pris celle de Fabrice, ce serait sûrement passé aussi. Mais bon, ouais, du coup pas ouf, pas de drama, pas de pleurs, et vu que j'aime pas trop les épreuves, bon, je me suis un peu ennuyée, mais bon, c'est pas grave.
Juju.
Ouais, bon, je rejoins un peu tout le monde de le choix de prendre que de la nourriture pour faire consensus au sein de la tribu, il est bon. Après, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit, mais ça fait un peu de théorie du complot. Hein. C'est que on a quand même insisté avant que les ambassadeurs partent sur le fait que certains auraient vraiment beaucoup aimé leur courrier. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a eu quand même, quand ils ont vu qu'ils avaient pris de la nourriture, notamment un sac de bonbons, qui fait plaisir, mais c'est pas, enfin, clairement, t'as pas, c'est pas une très bonne récompense, un sac de bonbons. Donc, est-ce qu'il y a peut-être eu quand même des critiques en mode « Oh, j'aurais largement préféré avoir Mallette plutôt qu'un sac de bonbons », mais que ces critiques n'ont pas été montrées parce que c'était Dorian qui était allé à l'épreuve et qu'il ne fallait pas écorner son image. Je me suis juste posé la question, mais sinon, le choix de prendre que de la nourriture, moi aussi, je le trouve assez cohérent, assez smart pour pas créer de division.
Alors là, je vais prendre justement quelques commentaires du chat. J'ai Marc qui dit que il a l'impression que dans cet épisode, la prod a tout essayé pour foutre la merde entre les candidats avec les sacs et les courriers. Et Booba qui répond, elle a pas réussi.
Grave. Ils ont tout mis là. La prod, ils ont tout mis là.
Ouais, alors que c'est marrant parce que quand même sur, je dirais, les 40-45 premières minutes jusqu'à la fin de l'épreuve de confort, c'est l'épisode avec que de la bienveillance et zéro mauvaise foi. C'était tout sauf un épisode de Koh-Lanta classique où normalement ça s'embrouille dès le premier jour à savoir qui va gagner l'épreuve de confort et tout. Et là, jusque-là, il s'était rien passé.
C'est ça. Et
la suite de l'épisode a quand même rattrapé.
Oui, l'argent.
Du coup, toi qui parlais d'épreuves de confort, on va passer à l'épreuve de confort. Les épreuves s'enchaînent en général très très vite après le début de l'épisode. Il y a deux trois par l'autre, au bout de deux minutes, paf, épreuve. C'est pour ça ils traînent absolument.
Bah, c'est pas ça, enchaîner très vite.
Et donc cette épreuve, c'était la fameuse épreuve des sacs. Et vu que Claude, le dieu Claude, n'était pas présent, on ne pouvait pas splitter les sacs. Voilà, c'est la règle.
Comme c'est étrange.
Oui.
C'est bizarre.
Donc, épreuve où... Si, on voit aussi, juste avant, on voit Lola qui se rapproche de Brice, qui lui dit qu'elle a un collier. Et Brice, justement, qui est tout intéressé, qui dit, tiens, on va pouvoir se faire une petite strat sympa. Et là, j'en parle là parce que ça a pesé, je pense, dans l'épreuve. Puisque dans cette épreuve, on se retrouve avec un Dorian qui a complètement survolé toutes les parties de l'épreuve et qui se retrouve en finale face à Alix et face à Lola. Et personne, justement, le Fabrice et Brice, qui avaient donc les sacs qu'ils devaient les donner, ont tous les deux préféré donner leur sac. Ou à Dorian, ce que je comprends parce que c'était le plus fort et qu'il faut bien les charger aussi. Et à Alix, qui, elle, a eu le poids le moins... qui a eu les 6 kilos de la part de Fabrice, je crois. Donc Lola s'envole avec 3 kilos et remporte cette épreuve. Et alors ça a gueulé sur Twitter en disant « Ouais, mais c'est pas normal, c'est pas méritant parce qu'elle a 3 kilos. »
C'est le jeu.
C'est
le jeu, c'est justement voir comment est ton social, comment est ton... le côté sportif, c'est un tout. Donc, bien sûr que ça fait partie du jeu, c'est de donner les sacs et de voir comment tu es imbriqué dans l'équipe, c'est tout. C'est justement ça l'intérêt.
J'ai trouvé ça dommage, en effet, que Lola ait zéro sac. Après, c'est parce qu'elle a aussi su tirer son épingle du jeu. En aucun cas, elle est responsable à un moment donné. Elle n'allait pas ralentir exprès pour ne pas gagner une épreuve de confort qui, à ce stade, est essentielle. Quoi. Après, j'ai regretté, moi j'aime beaucoup Loïc, j'ai regretté exactement. Qu'il ait été autant chargé aussitôt parce que ça lui a donné aucune chance. Mais vu que j'aime bien Lola aussi, je me suis dit, elle le mérite aussi, elle est mignonne. Elle est maligne en plus, on le voit après quand elle discute avec Angélique, elle est vraiment maligne parce qu'elle a compris qu'elle se mettait en danger en faisant ce choix-là. Mais je trouve ça assez bien qu'elle ait gagné, elle le méritait aussi.
Alors Freeze, toi par exemple, je sais que Lola, tu as aussi parfois des petites critiques envers elle, est-ce que tu peux en parler ?
Oui, je suis un peu partagé, parce que d'un côté effectivement, c'est plutôt une candidate que j'apprécie par certains côtés, effectivement elle est plutôt bonne dans toute la lecture du jeu, elle arrive plutôt bien à voir où chacun va, elle est plutôt intéressante stratégiquement. Après, il y a un côté naïf ou fausse naïve qui me gêne un petit peu. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est vraiment comme ça ou si elle en joue beaucoup, beaucoup. Donc au final, je suis un peu contrasté. Là, pour le coup, je suis complètement d'accord. L'épreuve, elle l'a gagnée toute seule. C'est imbécile de dire qu'elle y est pour quoi que ce soit. C'est justement bien joué de sa part de s'être fait un peu oublier, de s'être fait un peu sous-estimer, ce qu'elle fait d'ailleurs de manière générale et qui marche plutôt bien. Donc rien à dire sur cette épreuve. Moi, je suis plus un petit peu agacé par le montage, encore une fois, qui nous valorise Dorian avec ses 50 kilos. Bon, on a compris que Dorian était le petit chouchou de la saison, c'est bon. Mais là, c'est quand même un petit peu, justement, dommage par rapport à Lola, qui mérite sa victoire, etc., de ne pas s'être focus autant sur sa victoire que sur l'énorme performance. Oui, bon, il avait 45 sacs. OK, mais enfin, là non plus, il y est pour rien. C'est pas vraiment c'est pas très prestigieux en soi. Donc, encore une fois, le focus sur Dorian, le héros, ça me fatigue un petit peu. Voilà.
Bah, moi, ça me fait de la peine de dire ça un petit peu, parce que Dorian, je le connais et qu'il est vraiment cool, je l'adore. Mais je trouve qu'il est un peu surcoté pour l'instant sur l'aventure, quoi. Il est toujours bien placé, mais il n'a pas gagné encore. Donc bon, c'est pas encore le héros que la prod veut.
Hélène.
Ouais, j'aime pas l'épreuve des sacs. J'aime pas du tout cette épreuve. Non, j'ai vraiment okay, l'épisode à partir de après cette épreuve. Voilà. Le début, bof. Mais non, parce qu'à chaque fois, on revoit les mêmes critiques de oh, les femmes sont avantagées. C'est toujours le même débat qui revient et ça me gonfle. Mais non, moi je suis contente que Lola ait gagné. Enfin, ils avaient qu'à lui donner des sacs, mais. Surtout que j'ai fait l'erreur d'aller voir un peu sur Twitter hier soir, enfin pas hier soir, vendredi soir, et les gens voulaient que Dorian gagne, alors que clairement il n'a pas été si bon que ça sur le début de l'épreuve, pour moi, enfin de ce que j'ai vu. Donc il était assez équivalent avec Lola, donc.
Oui, il galérait à l'équilibre. En vrai, je pense que.
Ah ouais, c'est pour ça que, bon, à la limite à X, mais tu peux dire, ouais, X aurait pu gagner, mais.
Moi, je pense que Loïc aurait gagné. S'il y avait eu une répartition des sacs un peu plus, si en effet ils pouvaient splitter les sacs, Loïc gagnait.
Ouais, mais bon, c'est pas l'épreuve, quoi. Après, il y a le choix de Lola aussi. Qui était pas mal critiqué et j'étais. Bon, j'étais pas trop d'accord. Moi, je pense que j'aurais fait la même chose à sa place. Parce que de toute manière, son duo avec Angélique, il était déjà cramé. Donc, je pense que quand tu dois choisir quelqu'un en voyant en confort avec toi, tu choisis quelqu'un que tout le monde sait que tu es déjà proche avec lui, plutôt que griller des alliances devant tout le monde comme ça. Donc, non, moi, son choix, je le comprends.
Honnêtement, moi, je vous dis, comme j'avais un binôme fort, moi aussi, dans ma saison avec Maud. Je pense que clairement, ça aurait été stratégiquement con, mais j'aurais aussi choisi Maud, et je pense que Maud m'aurait choisi aussi parce que, de toute façon, nous on était grillés, on savait qu'on était dans la merde, donc un peu plus, un peu moins, on y serait allé au moins pour se requinquer et faire passer un moment cool ensemble. Donc je comprends tout à fait que Lola ait choisi Angélique. Après, dans leur situation à elles, elles sont moins en danger que nous on l'était, même si elles sont très visées, elles sont dans le viseur en tout cas. Mais je pense que j'aurais aussi choisi mon binôme. C'est là, comme t'as dit, elles étaient grillées déjà d'avance, donc bon, un peu plus, un peu moins.
Ouais, puis je pense qu'à ce stade de l'aventure, en termes de fatigue et de manque de lien affectif, un truc comme ça exceptionnel, t'as envie de le partager avec quelqu'un que t'as envie de avec qui tu as envie de passer une après-midi, et bien quelqu'un que tu n'aimes pas, à qui tu vas faire un cadeau et où tu vas à peine supporter sa présence, en fait. Ça me semble évident aussi.
Je suis d'accord, et parce qu'on n'est pas toujours, on ne peut pas dire, on n'est pas tout le temps dans la stratégie, c'est pas possible. Non. Donc là, moi, je l'ai montré dans les courriers dans ma saison, mais on n'est pas toujours dans la stratégie, c'est impossible. On ne peut pas être H24 quand on est, comme tu dis, en galère ou tu as besoin d'un petit peu d'être entouré des tiens. Bah, avoir un réconfort, bah, c'est important aussi.
Puis ouais, je pense qu'un choix différent aurait été critiqué aussi. Je sais pas qui vous auriez voulu qu'elle choisisse, mais je pense que dans tous les cas, ça aurait été critiqué. Donc, autant prendre Angélique.
Pour ne pas se faire critiquer, je pense qu'elle aurait dû choisir Dorian. Il avait 40 kilos, il le mérite, blabla. Et là, peut-être, ça aurait
pas été. Ouais, mais il n'a pas géré le début d'époque.
Hein, oui, mais je dis pas que j'aurais fait ça à sa place. Hein. Je comprends aussi parfaitement son choix. Elle a voulu se faire plaisir, partager un moment unique et inoubliable avec sa pote. C'est tout à son honneur, c'est très humain. Et puis en plus, elle est lucide après sur le fait que les autres le prennent sans doute pas très bien. Mais elle sait aussi qu'elle peut se le permettre à ce stade du jeu parce qu'elle a quand même des liens assez solides avec plusieurs personnes et deux colliers d'immunité dans sa poche. Donc c'est pas comme si elle était... au F6 avec un gros danger sur sa tête, plus du tout de collier. Là, ça va, elle a de la marche quand même.
Donc, dans l'ensemble, vous comprenez tout à fait le choix de Lola qui amène Angélique avec elle donc, pour l'épreuve de confort et qui, forcément, pour celui, ils étaient déjà bien, bien grillés, quoi. Mais vous êtes tous à peu près d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est sur le camp que ça a été un petit peu les gens étaient un petit peu ronchons, quoi. C'est que où tout le monde disait ben non, mais c'est pas normal que ce soit elle. Bon, surtout Dorian qui avait l'air de l'avoir bien mauvaise.
Ils sont toujours un peu rageux hein, sur le camp. Alix, elle est toujours un peu comme ça. Dorian, il aime pas perdre, il perd tout le temps. Donc forcément, ça grince un peu.
Lui et Alix, ouais.
Mais ouais, donc pour ouais, en ce qui concerne Alix, c'est elle sait pas si on la voit râler parce qu'il y a des stratégies, oui. Gna, les gens dans mon dos, ça fait un peu penser, vous savez, à ces personnes sur Facebook qui disent ceux qui parlent dans mon dos, mon cul les contemple et tout, j'aime pas les faux culs, gna. Enfin, c'est, il y avait ce genre de phrase, c'est-à-dire un petit peu une espèce de fausse naïveté un peu passive-agressive que. Qui ouais, comprend qu'il y a aussi des stratégies qui puissent se faire derrière son dos et ça l'agace parce que les gens sont pas honnêtes. Mais c'est quoi Lanta ouais. Enfin, c'est... Ouais.
On dirait qu'elle découvre, j'adore. Tu sais, elle se lève.
Mais c'est incroyable cette phase. Ouais, mais c'est ça, au moment où elle se fait réveiller, ouais. Où elle se lève, elle dit quoi, comment ça on va monter contre
j'adore.
Moi.
Non, mais
là, oui, enfin, t'es dans le
tu croyais quoi
que... Je sais pas, évidemment que les gens en parlent. Quoi.
Pendant que tu dors, les gens parlent.
Alix, c'est super intéressant parce que elle était plutôt vue comme quelqu'un de positif au début de la saison, un peu rayonnante, un peu machin, leader, mais sympathique. Et là, j'ai l'impression qu'à chaque épisode, ouais, c'est ouais. Un peu plus à charge contre elle, mais de son fait, hein. C'est pas vraiment enfin, on a vraiment l'impression qu'elle est que dans le négatif, que dans le côté un peu rageux, etc. C'est dommage parce que c'est une pente très glissante pour l'instant. Je ne sais pas si elle arrivera à s'en défaire, je ne pense pas honnêtement, vu le montage. Mais c'est dommage, parce que ça aurait pu être un personnage bien plus intéressant que ce qu'on en voit actuellement.
Ouais, elle a l'air de plus en plus désagréable, et c'est vrai que c'est dommage.
Mm. Ouais, c'est pire en pire. Elle a montré des super bonnes choses dans les épisodes avant. Mais là, ouais, ces derniers épisodes... Après, c'est les réactions à chaud aussi qu'on montre, donc...
Je pense que Alix s'épanouissait plus dans un rôle de leader naturel d'équipe, où elle tire ses coéquipiers vers le haut et elle fédère autour d'elle, que à partir du moment où l'aventure devient individuelle et où elle a gagné, je crois, une épreuve d'immunité individuelle, mais où enfin ça devient quand même plus compliqué de gagner des choses. Donc tu perds plus. Et elle a un côté un peu rageux quand même qui ressort du coup de façon plus marquée quoi. Oui, c'est ça, elle a gagné le parcours du combattant.
Et du coup, entre ces deux épreuves, on a eu vraiment un développement strat très intéressant, même si c'est n'importe quoi, parce que je crois que ce casting ne connaît pas la stratégie, qu'ils font absolument n'importe quoi, et que parfois du n'importe quoi peut naître de très très belles choses, la preuve. C'est que Brice est venu voir, je crois, donc Fabrice et les filles, c'est-à-dire Alexandra et Jody, pour proposer d'éliminer Alix. Sauf que Angélique est venue voir Alexandra qui a dit « j'ai jamais entendu parler de ça ». Du coup, ça soit au contraire. Donc, elles ont peur un petit peu de Brice, elles ont peur que Brice se foute d'elle. Et Brice se contente de bouder, tout simplement. De bouder, tu peux plus bouder comme ça, je fais plus de stratégie avec vous.
T'as douté de moi, bah, je vais te donner des raisons de douter. Non, mais... bah non, en fait.
Brice, c'est terrible hein, sur cet épisode. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
La cata.
Ah bah, comment passer de bien commencer une stratégie intelligemment, tu vois, poser les bases et tout, à genre le goût.
Même Fabrice à côté, on dirait un strateur incroyable. Alors que bon, bah...
Mais moi là, Lola, c'est là vraiment où elle gagne encore plus des points pour moi, c'est parce que quand elle revient et qu'elle parle à Angélique sur le camp et que Angélique lui dit oui mais Alexandra savait pas, j'ai parlé à Brice m'a dit que et moi je pense que machin, en fait Lola elle a une réaction qui est à mon avis celle qu'il faut avoir dans ces cas là, c'est mais on n'est pas des enfants, il faut qu'on se parle, parce que si tout le monde dans une alliance qui est en train de se monter parle les uns en disant je pense qu'il a dit ça, ouais mais il l'a pas dit à machin, il faut à un moment donné, il faut aller parler à Brice, et c'est ce qu'elle fait pour essayer de mettre les choses au clair. Elle se défend très bien auprès de Brice qui lui en effet a pour le coup soit zéro stratégie soit une mauvaise stratégie, mais Lola elle est vraiment maligne là-dessus.
Non, mais elle a une bonne lecture du jeu, on le voit, tu vois, ouais, quand elle dit, bah non, c'est un quiproquo, on va juste en parler et puis ça va se passer, tu vois. Donc, elle comprend en fait très vite, voilà, où est le souci. C'est la réaction finalement de Brice par rapport à ça qui est juste là pour le coup un peu puérile et que moi je n'ai pas compris, quoi. Tu te mets une balle dans le pied tout seul.
Se braquer pour des trucs comme ça, t'es sûr que Lanta, évidemment, que les gens se méfient. c'est évident.
Bah, bien sûr. Et bien sûr qu'on n'a pas confiance, c'est la base. Quelle belle valeur ce jeu, on adore.
Que du bon.
À vous écouter, c'est vrai que la réaction de Brice, bon, c'est que Brice, il a l'air de voter plutôt avec son cœur et qu'il a le... En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce casting, pour la plupart, on a l'impression qu'ils sont pas câblés pour comprendre tout ce qui est stratégique. C'est quelque chose qu'ils ont un peu peur de toucher et quand ils essayent d'en faire, bah, c'est mal fait. Et toi, je sais pas, alors, Cyril, toi, bon, toi, tu, quand tu étais dans ta saison, toi, l'aspect stratégique du jeu, dans le sens, ça t'a toujours intéressé, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu petit à petit? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait déjà de base? Et puis surtout, c'est quand on a une vision stratégique un peu comme la tienne, comment faire en sorte que les autres te suivent sans qu'ils se disent « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là »
Moi, je pense que je suis arrivé dans le jeu, je savais que le niveau sportif, c'était pas mon atout principal. Moi, je savais que mon côté sociable et très super actif sur le camp, je savais que je bougerais mon cul. Ça allait m'aider. Après, je pense que la stratégie, elle se met en place au fur et à mesure. Moi, je suis joueur avant d'être surtout stratège. En fait, je suis là pour jouer, quoi. Donc, ça se met en place avec les événements, avec ce qui se passe, avec les rebondissements et les personnes que tu as en face. Donc, moi, je pense qu'un de mes atouts, c'était de pouvoir m'adapter aux gens et de m'adapter justement aux situations. Et si tu ne sais pas le faire, là, on l'a vu avec Brice, tu fais capoter toutes tes chances et tu te tues socialement, quoi. Donc, pour moi... Je sais plus ce qu'on disait, mais voilà, c'est ça.
Moi, j'ai toujours un souci sur cette question de mérite et de performance dans les épreuves physiques. Parce que est-ce que tu n'es pas plus méritant quand tu arrives sur Koh-Lanta avec une condition physique moindre par rapport à d'autres qui sont très sportifs et que tu vas au bout de ce que tu peux faire et que tu te pousses dans tes retranchements plutôt que quelqu'un qui, en effet, a des facilités et se donne à peine... Enfin, on va peut-être pas revenir dessus parce qu'elle est déjà partie, qu'une Adja qui est censée arriver méga performante, très bonne en équipe et tout... Et qui donne rien sur les épreuves.
Bah, honnêtement,
pour moi, le mérite, c'est aussi savoir se dépasser et aller au bout de soi-même, quoi.
C'est l'éternel débat sur la définition même du mérite, parce que pour certains dont on fait partie, je pense, la stratégie est aussi une forme de mérite. On le dit assez régulièrement, mais je pense qu'il faut le redire de temps en temps. Donc oui, je suis d'accord, il y a des personnes dites plus faibles qui méritent plus parce qu'elles font peut-être plus d'efforts, elles donnent plus, elles se remettent plus en question, etc., etc. Il y a autant de définitions qu'il y a de joueurs et de téléspectateurs, je pense.
Mais moi, je suis d'accord parce que une Lola qui gagne contre qui tient une baraque à frites, qui est étudiante et qui gagne contre une Alix qui est championne de CrossFit, oui, forcément, je suis désolé, il y a quand même une question de niveau et ça c'est super, c'est un super bon point. Donc, on part pas tous avec les mêmes chances. Donc, quand on arrive à se surpasser encore plus, je trouve que c'est génial. Voilà, donc le mérite, ça dépend qui en parle.
Je sais que, par exemple, au niveau du mérite, c'est pour moi, c'est un petit peu cet écran moral qu'on met devant soi pour faire passer à peu près tout, en fait. C'est que, non, évidemment qu'il n'y a pas de mérite, en fait. Il n'y a pas de mérite, c'est juste c'est qu'on on essaie surtout de trouver le vote qui fera le moins de remous possible, quitte à ce que ça nous... quitte à ce que à certains candidats, ce ne soit pas forcément le move qui soit le plus intéressant pour eux. Mais pour moi, c'est le mérite, c'est ça qui est un petit peu, casse-pied, en fait, dans tout ça. C'est que c'est une définition qu'on peut moduler un petit peu à notre convenance et au final, je pense, est-ce qu'on gagnerait pas plus à être vraiment honnête? Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Cyril, c'est que je pense que tous les candidats pensent aussi à l'image qu'ils vont renvoyer et qui veulent aussi se protéger un petit peu, quoi.
Oui, oui, complètement. C'est l'image, tu y penses quand même. Donc, tu essayes de pas faire trop de remous ou pas être trop vilain, mais finalement, ça peut tuer ton jeu. Donc, il faut savoir pourquoi tu es parti faire Koh-Lanta. Est-ce que tu as envie de gagner? Est-ce que tu as envie de jouer? Ou est-ce que tu as envie de plaire à papa, maman? Il faut savoir aussi se mettre en danger, quoi. Et ça, c'est hyper important. Je trouve sur la mise en danger dans l'aventure, il faut Lola l'a prouvé la semaine dernière en n'utilisant pas son collier. Je trouve que c'est des choses très importantes et c'est ça qui te fait aller loin aussi. Après, c'est à double tranchant, mais bon, t'es là pour jouer aussi.
Toi qui l'as vécu, tiens, j'ai encore une question pour toi. Est-ce que tu penses que, enfin, par exemple, casting de ta saison, il y avait cette espèce d'aversion du risque, justement? J'ai l'impression qu'au fil des saisons, les candidats ont peur de prendre des risques, justement, peut-être plus que dans d'autres versions étrangères.
Alors, je parle pour ma saison. Je pense qu'on prenait plus de risques que certaines saisons, ça c'est sûr. Bah, notamment, je trouve que Cindy, c'est un bon exemple parce que. Là, je voyais sur le chat, il y en a qui parlaient de son social et qu'elle était sans scrupules. C'est-à-dire qu'elle elle a voté contre moi deux fois alors qu'on était censé être alliés. Mais donc, elle a une bonne image d'elle. Donc, du coup, elle tentait des choses et elle n'avait pas peur de tenter. Et ça, c'est génial d'avoir des candidats comme ça qui ne sont pas là pour les autres, qui sont là que pour eux, en fait. Et ça se perd. Et ça, j'ai un peu peur que, justement, ça devienne un peu trop lisse, justement. Et il faut des candidats qui osent et qui n'ont pas peur, comme Adja, par exemple, qui disent les choses et qui disent ce qu'elles ont en tête. Il ne faut pas des gens qui se cachent derrière l'image qui va être donnée d'eux, en fait.
Très bien. Bah, du coup, merci pour ces réponses, parce que c'est vrai que ça reprend un petit peu de choses que je pensais, justement. C'est que, comme tu l'as dit, c'est que parler de Cindy, là, pour le coup, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une très très bonne estime d'elle-même. Et c'est vrai que, tu vois, on prend par exemple une Alix, où on sent qu'elle est forte, mais elle a beaucoup d'insécurité, comme on l'a dit sur l'épisode avec Adja, qu'elle a beaucoup de mal à encaisser, même un petit peu. Enfin, c'était même pas du chambrage de la part d'Adja. Elle disait juste, ouais, comme ça, quand elle ratait. Bon, c'est pas très grave qu'elle ait du mal à encaisser ça, qu'elle est plutôt nerveuse et tout ce genre de choses. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats comme ça qui ont très peu confiance en eux, mais réellement une vraie confiance en soi, pas de l'orgueil, et qui pensent un petit peu que l'aventure va leur permettre non seulement de prendre confiance en eux, mais aussi qui c'est quelque chose qui va complètement inhiber leur jeu sur place, parce que ils vont penser forcément à leur image, à l'image qu'ils vont renvoyer, et ça c'est forcément dommage. Donc du coup, c'est bien qu'on puisse en parler, parce que c'est un truc qui me tient un petit peu à cœur.
Ouais, elle a une carapace incroyable.
De Alix.
Alix, ouais, complètement. Tu sens qu'elle est à fleur de peau et que elle essaye de se cacher derrière ce côté où c'est quelqu'un quand même malgré tout très affirmé, qui essaye d'imposer un peu ses idées, parfois un peu maladroitement, qui est très sportive et qui s'est à mon avis trouvée dans le sport pour la confiance en elle, comme tu disais, mais que derrière elle est très fragile, je pense.
Ouais, je suis d'accord, elle a l'air hypersensible.
Hypersensible. Sur le chat, ça parle d'hypersensible, ouais, c'est carrément ça.
Et en plus, dans l'aventure, ça exalte tout ça. Ça fait ressortir encore plus ton côté. Ouais. Ouais, c'est ça, de fragilité et tout. J'ai pas arrêté de chialer, alors, je le sais.
Fragilité. Pour revenir un petit peu sur la question du mérite dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a une dimension aussi dont on n'a pas parlé, c'est ce que fait le montage. Au mérite, en fait. C'est-à-dire qu'il va présenter, enfin, les monteurs vont présenter certains personnages comme plus méritants que d'autres, et la majorité des téléspectateurs va se contenter de ça, et donc soutenir des Dorian, des Alix qui sont présentés, mais c'est un point de vue, c'est un parti pris, qui sont présentés comme plus méritants que des Lola ou des Loïc. Alors même que Loïc a battu Dorian au parcours du combattant, que Lola, là, elle gagne deux épreuves dans le même épisode, et pourtant, je vois personne sur Twitter dire que Lola, c'est une bête en épreuve. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette force du montage qui donne aux gens des personnages à supporter plus que d'autres, car montrés comme plus méritants.
Mais en fait, l'émission, elle est basée aussi là-dessus. On a besoin de héros dans Koh-Lanta, parce que c'est la base de Koh-Lanta. Donc, il faut en créer. Et puis, même si c'est pas forcément toujours véridique, bah, en tout cas, il faut les avoir pour pouvoir les identifier, que le public se dise, bah, c'est lui le héros de la saison.
C'est ça.
Ouais. Alors que les vrais héros sont peut-être les autres. Mais bon.
Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter justement à ce sujet? Peut-être Hélène, on t'a pas beaucoup entendu justement à ce sujet-là.
Au sujet du mérite ou
Ouais, du mérite et du fait aussi peut-être du manque de confiance de certains candidats qui vont essayer de se cacher derrière ça plutôt que de s'assumer réellement.
Oui, bah, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et puis, Au sujet d'Alix aussi, ça explique pourquoi elle était plus à l'aise, comme on a dit tout à l'heure, dans le rôle de chef, et que là, là elle a du mal, quoi. Mais ouais, non, j'ai rien de spécial à ajouter.
Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'épreuve d'immunité, épreuve que tu avais déjà disputée, Cyril.
Exactement, où j'ai fini deuxième avec contre Maxime.
Sur cette épreuve, en gros, on a droit à une finale Lola contre Alix, et c'est donc Lola qui gagne. Alors du coup, bah, je reviens vers toi. Sur cette épreuve, justement, toi, qu'est-ce qui permet d'être bon justement dans cette épreuve? Est-ce que c'est quoi? C'est les trapèzes, c'est les triceps, c'est tout ça à la fois, c'est un équilibre, qu'est-ce qui permet de performer dans cette épreuve?
Alors, cette épreuve, franchement, c'est l'appréhension et la douleur. C'est-à-dire que il faut que moi je m'écrasais les pouces en fait pour pas lâcher. Parce que en fait, t'as de la tension un peu partout dans le corps, mais vraiment là où tu galères, où tu as mal, c'est les doigts, parce que c'est eux qui tiennent en fait le trapèze de derrière. Et il faut avoir aussi une stabilité. Moi, c'est à cause de ça que j'ai perdu. C'est pas les doigts qui ont lâché, c'est que j'ai bougé un peu sur la gauche et du coup j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé sur la gauche en fait. Et par contre, c'est une épreuve qui fait douloureuse, qui fait hyper mal. Je pense que c'est celle qui m'a fait le plus mal, parce que là, au niveau des doigts, au niveau des mains, il faut vraiment absolument se tenir. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit à Dorian pendant l'épreuve. Je lui dis ça, c'est pour toi et tout, et du coup, il me dit ah, je vais rater. Et ouais, je pensais que c'était une épreuve plus de mecs en fait, et visiblement, j'étais assez surpris de Lola et de Alix. Je les félicite. Parce que c'est, elle est vraiment très 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 douloureuse, très très compliquée.
Et toi, genre, par exemple, tu faisais du water polo à un bon niveau, tu en fais toujours d'ailleurs, je crois.
Plus trop en ce moment avec les piscines fermées, mais oui.
Mais je vois, c'est que niveau musculature et tout, c'est quelque chose. Est-ce qu'avoir une bonne musculature au niveau du haut du corps, justement, peut aider, ou au contraire, ça, est-ce que ça fait que les muscles vont se tétaniser peut-être plus facilement?
Non, je pense que oui, il faut être plutôt souple. C'est plutôt une sorte d'agilité des membres, tu vois. Plutôt, je pense que moi, justement, la natation, au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, ça m'a aidé sûrement, parce que j'ai pas eu de douleur à ce niveau-là. J'avais vraiment une douleur au niveau des mains. Mais je pense que tous les gabarits peuvent y arriver. C'est pas parce que moi je suis grand, tu vois, je fais 1m84. Donc c'est pas forcément parce que Lola est petite qu'elle gagne ou que t'es grand que tu vas loin. Enfin, c'est très aléatoire par rapport, je pense, plutôt à une sorte d'agilité de ton corps, ouais, de pas tétaniser. Donc pas besoin d'être une masse, mais je pense qu'une masse peut aussi gagner cette épreuve. Je pense que d'ailleurs Laurent Mestré avait gagné lors du All-Star, si je me souviens.
Ok, bah merci pour les précisions. Du coup, j'ai Koala qui me dit « N'oublie pas de parler du vote supplémentaire d'Alexandra ». Oui, sur cette épreuve, donc ils ont refait le coup du premier qui sort, qui a le droit à une voix contre lui au conseil. C'est tombé sur Alexandra. Au final, ça n'a servi à rien puisque personne n'a voté contre elle. Bon, c'était plutôt anecdotique. Bon, je trouve ça.
Mais est-ce qu'on peut pas dire que c'est une prophétie en fait, ce vote supplémentaire, que en fait, il n'y a jamais une seule personne qui a eu un vote supplémentaire qui a été éliminée, hein, de toutes les saisons. C'est quand même. En fait, il faut peut-être faire exprès l'avoir, quoi.
Il n'y a pas. Il n'y a pas Aubin qui a été éliminé alors qu'il avait eu ça contre lui. Je ne sais plus si c'était dans le même épisode ou pas.
Mais c'est oui, c'est mais... un sur
oui, c'est très rare quand même. Ça reste rare.
Ça reste une minorité, ouais. En tout cas. Ouais.
Moi, j'aime pas trop cette règle.
Ouais, non, c'est vrai que c'est une règle qui. Bon, comme tu dis, c'est là qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc, même si là, ça n'a servi à rien. Et donc pareil sur cette épreuve, donc il n'y a rien de plus vraiment à dire, je pense. Et ensuite, on va passer aux discussions avant-conseil. Et là, c'est le feu d'artifice, puisqu'on a les bouderies de Brice encore. On a Lola et Angélique donc, qui essayent de se mettre dans un sens ou dans l'autre et tout, et au final qui voterait jeudi, et les gens ne savent pas forcément qu'Angélique a un collier. Donc on sait qu'une majorité de collier va être va être donnée à Angélique, et Lola lui leur donne un petit peu son collier. Est-ce que pour vous, le vote de jeudi était un vote qui avait du sens, ou est-ce qu'au contraire, il n'avait pas mieux fallu viser quelqu'un comme Kamalix ou comme Laurent? Est-ce que jeudi était un bon choix selon vous? Bah, du coup, Freeze.
Bah, pas trop. Enfin, pour Lola, je vois à peu près, je vois à peu près le sens que ça prend. Après, je me demande s'il y avait quand même pas mieux à faire. Alors, pas Laurent en l'occurrence, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement ses chances de victoire sont quand même assez maigres. Donc peut-être qu'il y avait un risque un peu plus grand à prendre avec une Alix, peut-être justement. Mais bon, il y a une certaine logique quand même à voter jeudi dans le côté consensus. Je pense que même son élimination ne va pas choquer grand monde, ne va pas décevoir grand monde. Donc peut-être pour la suite, c'est le plus logique. Après, effectivement, clairement, c'était pas le plus gros danger non plus. Mais justement, ça peut être un choix plutôt malin. Donc, de ce point de vue-là, ça s'entend.
Vas-y, Juju.
Ouais, pour moi, c'est un choix qui s'entend carrément, qui est même logique, parce que Alix vote avec elle, en fait. Enfin, qui a le pouvoir dans ce conseil, c'est le trio du Nord. Fabrice, Angélique, Lola, dont Angélique est protégée par le collier. Et il y a Alix qui vote avec elle. Donc, il fallait trouver un vote qui convenait aussi à Alix, ou alors faire une aveuglette contre elle, hein, mais c'était compliqué, je pense, de faire ça, et ça les aurait mis plus, plus dans la difficulté qu'autre chose pour la suite, si elles avaient en plus éliminé Alix sans en parler à personne. Donc, il fallait trouver un point d'entente avec Alix. Et je pense que Jody, c'est ce qui convenait le mieux. C'est celle qui avait le moins de liens avec les quatre qui ont décidé du vote. Et on voit quand même que dans ce quatuor-là, c'est Lola qui maîtrise un peu la danse, qui est décisionnaire. Et Lola le dit plusieurs fois dans l'épisode, hein, que Jody, elle n'a aucune affinité avec elle, qu'elle c'est pas sa pote et ça ne le sera pas. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez logique, en fait, de viser Jody, qui, par ailleurs, a pas mal d'alliés, qui a encore Dorian et Brice de sa tribu d'origine, qui est assez bien entouré, qui s'est rapproché d'Alexandra. Il y a pas mal de paramètres qui me laissent à penser que c'est pas un si mauvais choix que ça.
Du coup, je vais demander à Amy.
Ouais, moi, je trouve que c'est pas un choix évident. C'est un peu, je lisais le chat justement pendant que tu parlais, et en fait, c'est pour ce vote-là, vu qu'il n'y a pas eu de drama ou qu'il n'y a pas une grosse stratégie derrière, il faut essayer de grappiller à gauche, à droite et comprendre pourquoi chacune a voté Jody. Moi, je trouvais que c'était un petit peu un vote par défaut, parce qu'on ne sait pas trop qui éliminer, il ne faut peut-être pas éliminer les très très forts maintenant, pas faire des gros dramas, machin. Donc c'est tombé sur Jody, pourquoi pas Ça m'a pas, en effet, ça m'a pas choqué qu'elle parte, mais j'ai pas forcément cerné tout de suite tous les enjeux qu'il y avait derrière.
Ou Hélène.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Je trouvais que c'était le choix le plus logique, en tout cas à la place des personnes du Nord, d'éliminer Jody. Et après, derrière aussi, ça isole un peu Alexandra, qui est peut-être un vote à récupérer derrière. Ouais, je pense que viser Alix, non, derrière, ça serait très mal passé. Et surtout que Alix est quand même proche d'Angélique Lola. Donc, elles ont raison de la garder avec elle. Ouais.
Et puis, sans compter que Brice se met tout seul dans la difficulté en mettant ses deux votes contre Angélique, alors qu'il aurait tout simplement pu les diviser un contre Angélique, un contre Fabrice. Fabrice aurait été éliminé. Non, il n'aurait même pas été éliminé au revote, je dis n'importe quoi. Mais la division, c'est vrai que la division des votes entre oui, Angélique et Fabrice était curieuse.
J'ai pas compris les votes du tout, surtout que Brice était au courant du collier, non. Il est au courant que Lola et Angélique sont très proches, il est au courant que Lola est très émotive et qu'elle va vouloir protéger Angélique, et ils mettent juste deux votes contre Fabrice. Voulant viser un trio, split à deux votes, curieux. Ça n'a aucun sens.
Moi, je me dis aussi que le vote de Jody, c'était peut-être pour rassurer Alix aussi, pour lui dire « Non, mais regarde, on ne veut pas voter contre toi, on va voter contre Jody. » Peut-être parce qu'elle a quand même entendu parler de cette alliance qui était contre elle. Donc, peut-être c'est pour la récupérer, se dire « Voilà, ça fait consensus, comme vous dites. » Et puis, en même temps, ça te rassure. Donc, reste avec nous, t'inquiète pas, t'es notre allié.
Ouais, et puis de base, Jody, si les votes se sont dirigés contre elle, qu'elle a pas, enfin, d'après les dires de Brice, c'est parce qu'elle n'est pas allée prévenir ouais, Alexandra. Donc, j'ai envie de dire tant pis pour elle, quoi.
Mais... ça me fait tellement rire parce que c'est tellement Koh-Lanta en fait. Si tu dis un truc à quelqu'un, tu dis, est-ce qu'il, mais tu sais pas s'il l'a encore dit parce que t'as pas eu le temps d'aller le revoir, parce que si tu le revois trop rapidement, les gens vont commencer à se dire, oh là là, ils sont en train de parler entre eux, donc tu fais attention à quand tu te regroupes en solo pour parler strat, parce que quand tu parles strat, les gens le sentent, le voient, tu vois, enfin, parce qu'en général, à part parler strat, tu t'isoles pas spécialement, quoi, à deux ou à trois. Ou t'essayes de le faire pendant que tu vas chercher de la bouffe ou l'eau, mais si dans le camp tu pars avec une personne, tout le monde est en train de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils font, quoi ?» Donc ça m'a fait bien rire, ça. Je voyais très bien la scène, en fait.
Alors du coup, vu qu'on a là, on est passé un petit peu sur l'épisode, on a tout fait, je propose qu'on passe à se focaliser sur certains candidats qui voir si leur classement, un petit peu leur placement a évolué. D'abord, moi, je voulais parler d'Alexandra. Donc, sur cet épisode qu'on a vu un petit peu dans les alliances, qui a eu un vote contre elle, mais qui n'est pas visé par les votes. Est-ce que pour vous, est-ce que son placement est toujours intéressant? Est-ce que c'est une candidate qui peut aller loin? Est-ce que c'est une candidate qui conserve un peu tout votre intérêt, Freeze?
Mon intérêt, oui, parce que c'est une candidate que j'aime bien, parce qu'elle a quand même un côté un peu divertissant, on va dire. Elle a certaines réactions un peu inattendues, elle a des mimiques qui sont quand même très rigolotes. Après, en termes de candidate, en termes de jeu, pour l'instant, disons qu'elle se fait un peu discrète. Je pense que c'est volontaire, en tout cas j'espère, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de son équipe là qui ont été éliminés tour à tour, donc c'est plutôt logique... qu'elle ne veuille pas trop s'exposer et qu'elle essaye un peu d'aller là où va le vent. Après, je ne sais pas, on l'a toujours vu dans une dynamique plutôt positive. Là, c'est la première fois où elle est quand même vraiment en bas de l'équipe. Donc, ça va être intéressant de voir si elle peut reprendre un peu les rênes. J'ai du mal à la voir dans ce rôle-là, honnêtement. Mais par contre, elle peut quand même se faufiler relativement loin. Je ne pense pas qu'elle soit ciblée particulièrement par qui que ce soit, alors qu'elle a pourtant un social tout à fait correct. Je pense que les gens l'apprécient plutôt dans l'ensemble. C'est aussi bizarrement un danger sur les épreuves, mais dont personne ne parle. On l'a vu, hein, elle était très forte en équipe, un petit peu moins depuis que c'est en individuel, mais c'est normal, il y a quand même d'autres adversaires. Donc, elle a encore des cartes en main. Après, il va falloir qu'elle se fasse un peu violence, je pense. Et c'est peut-être là où ça va être le plus difficile pour elle. Mais moi, je continue de l'apprécier et j'espère l'avoir encore un petit moment.
Oui, parce que c'est marrant, parce que tu dis qu'en effet, on sait qu'elle est bonne sur des épreuves, notamment tout ce qui est épreuves stratégiques où elle est quasiment imbattable, je pense. Et que pour autant, là, elle avait déjà un vote contre elle. Et que, en tout cas, au montage, pas une seule seconde, son nom est ressorti dans « Qui on vote ce soir ?» Après l'épreuve d'immunité, enfin on l'a pas vue une fois. On sait pas. Enfin, quand elle est partie au conseil, moi j'aime beaucoup Alexandra, et quand elle est partie au conseil avec déjà une voix contre elle, je me suis pas dit potentiellement elle est en danger. Pas du tout. Après, en effet, elle est un peu en retrait. Au moment de la réunification, elle a dit elle-même qu'elle se mettait un peu en retrait, le temps de comprendre les mécaniques de groupe et qui étaient les personnes avec qui elle n'avait pas encore vécu sur le camp, et qu'elle est peut-être un peu restée dans ce mood-là, et que ça pourrait peut-être jouer un peu contre elle après, mais elle a l'air plutôt appréciée.
Elle a l'air en effet bien placée quand même, parce qu'elle est approchée par Brice, elle a Lola, Alix et Angélique qui sont leur groupe de quatre. Elle est pote avec Jodie, donc finalement, elle a toujours ses alliés de Loïc et Laurent, donc quand même, elle a un bon réseau, quoi. Donc elle est plutôt pas mal.
C'est un peu comme Loïc, j'ai l'impression, enfin, ils sont tous les deux sympathiques, appréciés, mais j'ai du mal à voir vraiment leur placement, à voir qui sont vraiment leurs alliés. Enfin, est-ce qu'ils s'entendent juste un peu avec tout le monde ou enfin, j'ai du mal un peu à la placer, à part son binôme avec Jodie.
Et puis binôme tardif, hein, parce qu'on l'a découvert que dans cet épisode-là, finalement. Donc ouais, ça, je suis d'accord qu'on ne sait pas trop.
Bah, surtout, oui, que Alexandra avait voté contre Jodie, il me semble, une fois. Ou le contraire, je ne sais plus.
Mais c'est malin aussi de se dire... peut-être qu'elle se le dit ou pas, je suis pas sûre qu'on l'ait vu face caméra en parler en tout cas, mais de laisser les autres se bagarrer entre eux, que ce soit sur les épreuves ou sur le camp, dans les stratégies, les alliances, etc. Et puis d'essayer de... En fait, les laisser s'éliminer entre eux, les uns après les autres, et puis de continuer son petit bonhomme de chemin.
Je veux juste rebondir sur quelqu'un, il y a Ikaru dans le chat qui dit « Alexandra, elle fait des discours féministes au conseil, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve, et on l'a déjà noté dans cette saison, que encore une fois, le côté un peu boomer de Denis Brognard et de la production est un peu fatigant, c'est-à-dire qu'à chaque saison où il y a des candidates qui brillent un peu, on va dire « Oh là là, mais dis donc, les femmes, finalement, vous n'êtes pas si nulles ». C'est quand même un peu fatigant, ouais, on y revient. Oui, les femmes peuvent gagner des épreuves, oui, les femmes peuvent être meilleures que les hommes. Le fait de s'attarder dessus, je trouve ça épuisant parce que, voilà, ça, on devrait quand même plus en être là. Ça, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais visiblement, elles ne sont pas ouvertes partout.
Ça me paraît un peu gros. Hein.
Il faut arrêter d'être étonné qu'une femme puisse gagner une épreuve. Il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde, bien sûr, qu'une femme
peut gagner. Est-ce qu'une femme peut gagner Koh-Lanta, ça, j'en sais.
Elle peut gagner, mais est-ce qu'elle sera
sûre?
Mais j'espère.
Faut vraiment être nul pour perdre contre une femme, hein, Cyril.
Ah. C'est vrai.
Bah, mais elle avait pas tous les francs.
Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Fris. C'est pour eux, c'est le non-sexisme, ça veut dire ne pas traiter des femmes comme des inférieures, mais frontalement. Voilà, c'est que là, c'est pour eux, en gros, ils disent, mais vous rendez compte, les femmes, cette épreuve, voilà, là, est-ce que c'est la saison des femmes? C'est pour eux, c'est en faisant ça, c'est une célébration. Voilà.
Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que je pense qu'ils se sentent comme des oufs en se disant « Oh là là, on est vachement woke, on est vachement ok, on parle des femmes et tout. » Mais non, enfin, ça fait l'effet inverse. C'est terrible. C'est terrible, mais bon, on va dire voilà. Que ça évolue. Pardon, c'était une digression, mais je tenais à le préciser.
Ouais, le pointer du doigt, ça a l'effet inverse de ce qu'ils voudraient.
Alors, autres candidates sur lesquelles... Donc, parce qu'on a fait, Lola et Angélique, on a fait Alix, on a fait Laurent... bon, Dorian, bon, à part avoir le seum, on l'a pas vu beaucoup de l'épisode, à part sur les épreuves, mais sinon, il a un peu, il avait essayé de suivre le vote Angélique, ça n'a pas marché. Alors, moi, s'il y en a une encore, c'est Ava, encore une fois, c'est qu'il faut qu'on en parle parce que la pauvre, qui apparemment construit des trucs, qui est dans la cabane, qui était aussi impliquée dans le radeau. Et en gros, la seule fois on la voit, c'est quand elle se grille les poils d'aisselle avec le feu. Mais voilà, c'est la pauvre. Je comprends pas son montage. Je comprends pas pourquoi ils font ça, alors que ça a l'air d'être une candidate qui est active, qui est intéressante, qui a des choses à dire. Et ouais, c'est le fantôme, c'est le Casper de cette saison, quoi. Vous, comment vous comprenez ce montage-là, vous ?
Ma pauvre petite Ava, la pauvre. Franchement, c'est très dur. On en parle parce qu'elle est à Paris, donc je la vois de temps en temps. Et c'est vrai qu'elle comprend pas trop. Après, elle est très contente de son aventure, elle est contente de ce qu'elle a vécu. Et en effet, comme tu dis, elle est en plus, tu vois, c'est la constructrice du camp, celle qui avait fait le radeau. C'est un peu grâce à eux qu'ils ont gagné. Enfin, je sais plus si elle avait gagné, mais bref. Enfin, elle est présente, tu vois, elle est bien placée parce que là, c'est la seule à pas lever la main quand Denis demande si on se sent en danger parce que en fait, elle est bien placée dans le jeu, quoi, en fait, finalement. Mais en fait, on ne sait rien de ce placement, donc c'est assez dingue. Mais dans chaque saison, en fait, il y a des personnages qu'on voit moins, mais là, je trouve que sur Ava, c'est quand même très très marqué, quoi.
Amy, tu voulais dire ?
Non, mais je suis vachement partagée. Il y a des côtés quand même extrêmement lourds de la prod. Je me souviens sur un des épisodes précédents où Denis, en voix off, il a dit les filles sur le camp, leur préoccupation, c'est de se faire des nattes, machin. Un truc un peu lourdingue comme ça. Là, c'est un peu la même chose. Et je ne sais pas, en fait, si c'est... Enfin, moi, c'est une question que je me pose toujours. Comment tu fais le minimum d'hygiène sur Koh-Lanta, comment ils font ? Et les filles qui, en effet, ont envie d'avoir des poils ou n'ont pas envie d'avoir des poils, comment elles arrivent à le gérer, sachant qu'on sait quand même que cette saison, Alix notamment, il me semble, a été critiquée sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait des poils sous les bras, où elle a été obligée de se justifier du fait que, ben oui, en fait, les femmes aussi ont des poils sous les bras et sont pas toujours épilées. Donc je sais pas si c'était là à la base, pour montrer un peu ce que c'est aussi la vie sur le camp, en dehors des épreuves et de « faut faire à manger » et de « faut aller chercher du bois, de l'eau et des stratégies », ou si c'est une réponse un peu assez critique, qui est une réponse extrêmement maladroite, parce que ça montre quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir de poils, qui est complètement, qui a le droit de ne pas avoir envie d'avoir des poils, mais qui n'est pas la réponse qu'il fallait apporter aux critiques sur les poils dans Koh-Lanta. Donc je n'arrive pas trop à comprendre l'intérêt de ça, surtout qu'en effet, Ava, on ne la voit pas, et que je pense qu'il y a d'autres choses à montrer d'elle que elle qui a envie de s'épiler les aisselles, quoi.
Et en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord ça, sur tous les candidats, c'est que, à part peut-être des petits favoris qui se détachent, un peu bah, comme Lola, comme Loïc, j'ai l'impression que le jeu est quand même très ouvert, et que du coup, c'est assez difficile de prévoir vraiment, même avec le montage, c'est assez difficile de prévoir qui pourrait être un potentiel gagnant, alors que c'est vrai que ça faisait comme 2-3 saisons où dès l'épisode 4 et 5, on pouvait avoir déjà une petite idée des favoris. Je pense notamment à Nawel la saison dernière, ou même à Maud, parce qu'on avait vu assez facilement que Maud était quand même très très bien vue par le montage et que sa victoire pouvait être un petit peu prévisible de ce point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
oui, je suis d'accord. C'est difficilement lisible déjà en termes de jeu et en termes d'alliance, donc ça l'est d'autant plus en termes de positionnement de chacun et de chacune. Après, Lola, effectivement, sort un petit peu du lot, mais est-ce qu'elle sort pas un peu trop du lot pour que justement elle soit aussi exposée? On peut se poser la question. C'est difficile, c'est pas très lisible, donc honnêtement, c'est un peu dur de se projeter même sur l'épisode d'après, surtout que c'est un épisode particulier. Donc c'est très très compliqué là de faire des pronostics honnêtement.
Non, j'allais dire Lola me fait penser un peu à Cindy, c'est-à-dire que elle est quand même très visible, elle est très mise en avant, mais est-ce qu'elle est forcément gagnante, ça rien n'est moins sûr, parce que justement elle est peut-être trop mise en avant. Et je suis d'accord sur le fait que cette saison le montage permet pas de faire émerger quelqu'un en particulier, et je trouve que c'est aussi grâce au concept des quatre équipes de départ qui se sont remises en deux équipes. Ça a un petit peu mélangé un peu les relations avec les uns et les autres, ça crée plus de jeux. C'est pas si mal finalement, je trouve, pour une fois que j'aime bien que ce soit recomposé, je trouve que c'est pas mal.
Ouais, comme dit Ezra sur le chat, on sait à peu près qui ne va pas gagner. Angélique et Laurent sont assez mal vus par les coéquipiers et le jury final, donc ça me paraît improbable. Ava aurait évidemment beaucoup plus de temps d'écran si elle allait au bout et qu'elle gagnait. Et enfin, moi, je vois pas non plus Brice gagner, tout simplement parce qu'il est trop erratique dans son aventure et qu'il pousse des coups de sang un peu aléatoire, et que c'est pas ce que je considère être un montage de gagnant. Dans les autres, vraiment, c'est ouvert. C'est très ouvert, même si effectivement Lola a peut-être une petite longueur d'avance, mais je rejoins ce qui a été dit précédemment. Elle est peut-être un peu trop exposée trop tôt.
Ouais, moi c'est ce que j'aime bien aussi dans cette saison, c'est qu'au niveau alliance, affinité, c'est le bordel, et ça j'aime bien. Parce que vraiment, ça, on voit qu'il y a plein de gens qui peuvent jouer ensemble et qui vont pas forcément avoir les mêmes votes, mais qu'autour d'avant, ils vont peut-être pouvoir jouer ensemble. Mais ça, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment plein de possibilités. Donc non, je sais pas encore qui je verrais bien gagner. Bon, j'aimerais bien une victoire de Fabrice parce que c'est mon chouchou, mais bon, j'y crois pas trop. Mais bon, j'y crois, moi j'y crois.
C'est pas gagné, quoi.
Ah ouais, ah voilà.
Le roi.
Il mettrait sa plus belle chemise devant le jury final.
Ouais, moi je rejoins assez Cyril sur ce côté où on commence à quatre équipes et on remélange tout et on fait deux équipes et on remélange tout au moment de la réunification. En fait, il n'y a plus cet aspect avant où on appartenait à une équipe pendant plus de la moitié du jeu et on créait une alliance à ce moment-là et on s'y tenait. Alors que là, il y a eu des sorties aussi, je crois qu'ils sont tous sortis maintenant, mais ceux qui sont sortis pour problème médical et du coup ça a fait rentrer des autres mais qui venaient d'une autre équipe, etc. En fait, même moi aujourd'hui, j'ai du mal à me repérer sur le camp de qui pourrait faire une alliance avec qui en fonction de à quelle équipe il appartenait à quel moment du jeu. Je pense aussi que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à détacher et des alliances et des gagnants entre le montage et les spécificités des équipes de cette année.
Comme par exemple Loïc Laurent, qui sont proches, et pourtant ils votent pas du tout ensemble quand on regarde. Alors que c'est quand même censé être un bon effort.
Ouais, et Loïc a dit dès le départ que de toute façon, ouais. Lui, Loïc, il est plutôt clair sur le fait qu'il veut se tenir en dehors de ça. Ce qui est marrant, parce qu'à d'autres saisons, les gens qui ne veulent pas faire de stratégie, ça leur porte préjudice. Et là, Loïc, il passe complètement entre les mailles des filets. Ce qui est cool, hein, moi, j'ai clairement le binôme Alexandra-Loïc. C'est mes chouchous depuis le début. Mais lui, enfin, il a l'air très apprécié en plus.
Est-ce qu'il ne fait pas penser un peu à André, du coup ?
Il a un peu plus de capacité sur les épreuves.
Ouais, quand même, mais ouais, ouais, ouais. Il y a un petit
dans le côté sympathique.
André avait ce côté-là, oui. Du coup, là, puisque l'épisode est terminé, vous va passer à un petit programme qui, dans le but de vous apporter le divertissement animé par notre Freeze. Voilà, tu nous as manqué. Tu nous as manqué ces derniers temps. C'est le...
Ouais, je suis désolé, j'ai failli à ma mission pendant 2 semaines, mais je suis là de retour.
Voilà.
Avec des phrases incroyables, vous allez voir.
Eh ben écoute, on lance le jingle.
C'est l'heure du...
Qui qu'a dit ? Ah, ça fait du bien. donc oui, c'est l'heure du qui qu'a dit. Vous connaissez le principe des phrases qui ont été dites. Voilà, comme son nom l'indique, durant l'émission de vendredi soir par les candidats. Et il faut retrouver qui qu'a dit. Alors, je reprends mes petites fiches. Je ferai bien un point sur le classement, sauf que j'en ai aucune idée. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Je sais qu'Hélène a des points. Je crois même que Cyril a un point de mémoire. Ouais, voilà, point, après, c'est Jade, Clément qui sont bien. Mais promis, je ferai un petit récap. Possible. Alors, on va commencer. Donc, oui, pardon, vas-y.
Il me semble que Madar est premier, d'ailleurs, puisqu'il avait gagné.
C'est possible, c'est possible. Honnêtement, j'en sais foutre rien. allons-y. La première phrase ne parle pas de Plancaster, je préfère le préciser. Il est moche, mais il est bon. Qui a dit ça ?
Non, je dis.
Elle ne parle pas d'un candidat, fruit. Si ça peut vous donner un indice.
Elle parle d'un fruit.
Non, elle parle pas d'un fruit. C'est Lola, ouais, c'est Lola qui parle du poisson. Voilà.
Ah,
il ouais, y avait un petit piège. Il y avait un petit piège.
Ah oui, la tête de poisson.
Le poisson est donc moche, mais il est bon.
Angélique,
certains dans
Lola.
Le chat se reconnaîtront. Deuxième phrase. Il y a beaucoup de non-dits qui n'ont pas été dits.
C'était une des deux.
Dorian, Dorian. Voilà. Eh oui, non, c'est Dorian qui a dit cette phrase que je trouve absolument incroyable. voilà. C'est pas impossible que ça soit dans le. Je pense qu'à la fin, on fera un kick-a-di en or pour le dernier épisode avec toutes les meilleures phrases. Spoiler, je pense qu'il y aura celle-là parce que je la trouve une brève de comptoir magnifique. Et la dernière phrase, j'ai les oreilles qui sifflent, mais tant pis, j'étais sous l'eau.
Angélique.
Angélique, ouais, ouais.
Ça va. Ah.
C'est une très bonne punchline aussi de notre amie Angélique. Bravo Hélène, bravo à tout le monde. Point sur le classement la semaine prochaine, c'est promis, je vous le jure.
Angélique.
Et du ouais. coup, bon, on va te le remettre un petit peu, normal.
Ah, je t'en supplie.
C'est l'heure du...
Qui qu'a dit ?
Bah, merci beaucoup, Freeze, encore, pour animer cette podcast.
Merci, Freeze.
Avec plaisir.
Et du coup, c'est l'heure où on doit se quitter à tous. Donc, merci à vous tous encore pour cet épisode qui a été très riche. En analyse, comme ça, en point de vue un peu sur les candidats. Bah, merci déjà Cyril d'être venu passer une tête pour nous rendre visite.
Bah, merci à vous, ça m'a fait encore plaisir comme d'habitude. Moi, je fais une petite promo pendant que j'y suis parce que du coup, on a fait une émission avec Maud sur la RTBF. Donc, pour ceux qui arrivent à la choper sur Tipeee qui passera le 11 novembre, ça s'appelle Escape Show. Et on est dans une centrale nucléaire, Maud et moi, et ça va être assez fun. Donc, si vous avez l'occasion de regarder ça, c'est mercredi 11. Voilà.
Mais ça va vachement sympa ça en plus, putain, c'est sympa comme conseil. Et surtout, j'ai cru entendre aussi que tu étais très très fort en escape room, toi, en escape game.
Oui, je me débrouille pas mal.
La modestie.
Et tiens, j'en profite parce que je l'ai devant les yeux. Pour ceux qui veulent aller lire un petit peu mon copain Maxime Berton de ma saison de Koh-Lanta qui a sorti son livre Carnet de voyage, carnet d'aventure. Ouais, je fais de la promo pour les copains aussi.
Oui, mais c'est vrai que bon, on l'avait un petit peu taquiné nous, sur le podcast, mais du coup, c'est qu'il a fait de faire des choses pas mal. Et là, du coup, ils sont aussi son bouquin. Donc, si jamais ça vous intéresse, voilà, allez prendre, parce que Maxime a l'air d'être quelqu'un de très sympathique.
Il est les librairies sont fermées, c'est dommage.
Pourrait le télécommander, le télécharger, le télé.
On va faire ça. Voilà. L'acheter par internet, quoi.
C'est ça, la modernité des jeunes.
Est-ce qu'il est dispo en Kindle?
Je ne pense pas encore. Non, mais en plus, il y a des belles photos qu'il a faites lui-même, donc allez voir. Non, il parle pas de Koh-Lanta, hein, il parle que de ses aventures. Mais bon, c'est dommage.
Bah, merci beaucoup, Cyril. Bah, merci aussi à Amy d'être venu passer une tête aussi. Du coup, donc on rappelle tes activités, donc Podcut.
Oui, voilà. Elle est sur podcut.studio, il y a tous les podcasts du label. Et moi, les deux où on m'entend, c'est les deux qui sont sur Stephen King ou Stephen King avant. Ou Stephen King, même, j'ai lu dans le chat. sur l'auteur américain qui fait de l'horreur, là. Voilà, moi, c'est ces podcasts-là.
Ouais, merci. Puis évidemment, tu reviens quand tu veux. Alors, merci à mon acolyte Freeze d'être revenu cette semaine et qui a un petit peu animé encore une fois cet épisode par ses réflexions. Merci à toi.
Mais pas de quoi. Toujours un plaisir. Merci Damien. Merci à tout le monde. Et puis à la semaine prochaine.
Et merci à nos deux qui étaient déjà venus. Déjà, c'est merci à Hélène et merci à Juju.
Merci beaucoup.
C'était très sympa.
Cool comme d'hab.